Les mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, c'est avec une grande joie que j'accueille Thomas Recourt, coach somatique qui s'intéresse tout particulièrement au plaisir, à la sensualité et à la sexualité. Bonjour Thomas.
Bonsoir Jean-David.
Alors pour te présenter brièvement, après un master en business à Grenoble École de Management, puis après avoir travaillé au Honduras et au Guatemala comme chef de projet dans l'entrepreneuriat social, tu opères un changement de vie. Tu choisis de revenir à la terre et sur le sol européen pour explorer les éco-villages, te former en permaculture et en éco-construction. Au retour à la terre se succède un retour au corps par des pratiques somatiques et de danse. Tu te formes également au coaching sexuel, suivant différentes écoles et traditions. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à l'exploration de leur plaisir, leur sensualité et leur sexualité. Alors pour commencer, Thomas, quel est ton état de corps à cet instant ?
Merci de m'introduire, c'est agréable. Je sens que ça éveille quelque chose en moi. Et dans mon état de présence, je me sens en fait dans un état assez ouvert. Et mon état de corps, il est plutôt excité. Donc je sens que ça vibre un peu à la surface de ma peau. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement d'ouverture vers l'extérieur. Cette excitation-là de la radio que je connais pas trop. Hein, c'est un peu nouveau pour moi. Donc voilà, ça résonne dans mon corps.
Très bien. Bon, espérons que cette excitation continue et qu'elle soit contagieuse, et nous l'espérons, parce que nous allons vous réserver quelques surprises, surtout pour le dernier tiers de l'émission. Donc j'espère que, chers amis auditeurs et auditrices, vous serez encore là pour explorer justement ce que Thomas propose comme accompagnement, mais cette fois-ci ça sera en direct auprès de vous.
Expérientiel, ouais, on va mettre la théorie en pratique.
Bon. Et alors, on va peut-être commencer par le début, et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'accompagnement que tu proposes, des accompagnements que tu proposes, quelles étaient peut-être les graines présentes avant que tu bifurques de ta vie de chef de projet, justement, à cette vie-là, plus axée sur les pratiques corporelles, sur la danse?
Je dirais que les graines présentes, c'était quelque chose, un fil rouge dans ma vie, c'est la recherche de sens. Trouver du sens à ce que je fais, c'est quoi le sens des choses. Et bon, c'est pas facile de trouver le sens en faisant une école de commerce, mais je le trouvais quand même. Je me disais, bon, je peux aller dans l'entrepreneuriat social et trouver un impact aussi aux pratiques plutôt capitalistes prônées dans l'école de commerce. Et donc il y a toujours eu cette recherche de sens, cette recherche du pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui me guide. Et ça m'a aussi guidé dès le début à pratiquer aussi des pratiques corporelles déjà depuis longtemps, le yoga, je faisais déjà ça, j'avais déjà un intérêt pour des formes de yoga, développement personnel, spiritualité, donc il y avait déjà ces graines-là, même quand j'étais déjà chef de projet, quoi.
D'accord, et est-ce que c'est donc au Honduras ou au Guatemala que les choses ont commencé un petit peu à, j'allais dire, fleurir en toi, que les graines ont commencé à pousser et que... on va dire au contact d'une autre culture, peut-être une culture, j'allais dire, un peu plus ouverte et un peu plus axée sur la nature, mais...
Ouais, carrément, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a plusieurs choses. Le fait d'avoir vécu là-bas, déjà, c'est que ça m'a aussi sorti de mon bain culturel connu. Et ça m'a offert un espace de grande liberté, où j'étais moins dépendant des codes familiaux, sociaux, qui étaient autour de moi quand j'étais en France. Donc c'était un espace, un peu nouveau, dans lequel j'avais une grande liberté. Et c'est aussi un territoire, comme tu le dis, d'ailleurs fleurir, c'est un mot vraiment approprié, parce que c'est un territoire où la terre est très riche, très fertile, où il y a encore aussi une grande connexion au peuple racine, à une forme de spiritualité aussi qu'on a plus perdu ici, comme si, là-bas c'est comme s'ils avaient encore des druides en fait, qui vivent sur leur territoire, enfin l'équivalent des druides, il y a des peuples racines qui sont encore vivants, qui maintiennent encore des traditions, et du coup il y a une forme de reliance à la terre, au corps et à la spiritualité qui est plus forte là-bas, et aussi une simplicité à être dans le corps pour, je pense, plein de réseaux qu'on pourrait expliquer, mais que j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas sur quelque chose de l'ordre de, c'est un peu cliché, mais en tout cas, ils apprennent très vite à danser, à bouger leur corps, il y a des trucs de joie, aussi, je pense, liés au climat, et donc là-bas, ils apprennent à danser en même temps qu'ils apprennent à marcher, c'est quelque chose, du coup, qui fait les faire habiter leur corps aussi d'une façon très joyeuse, et c'est une habitude qu'ils ont beaucoup plus que nous en Europe, quoi.
Est-ce que des choses ont particulièrement fait écho en toi à ce moment-là, justement ?
Tu veux dire sur des pratiques ou sur des...
Oui, tout à fait. Est-ce que même dans ton parcours, donc je t'imagine chef de projet dans ces pays-là, avec justement ta culture occidentale, tu es confronté à ça et peut-être il y a des questions qui arrivent, puis peut-être même des événements déclencheurs qui vont te dire « Ah, là, c'est ici que ça se passe, c'est là que j'ai envie de commencer à tracer mon chemin. »
Ouais. Bah, il y a tout ce bain que je décris, donc que j'ai déjà décrit, et ensuite il y a, pour moi, ma vie, elle est beaucoup rythmée de rencontres, et c'est des rencontres qui vont changer des directions, qui vont amener, donc dans les événements déclencheurs, je pourrais décrire plusieurs rencontres. Et ça a été de rencontrer des personnes, en fait, qui vivaient des vies très différentes de ce que je pensais possible. Moi, j'ai grandi dans un univers assez normé, grandi à côté de Versailles, j'étais au collège, lycée à Versailles, donc milieu plutôt bourgeois, où en fait il y a un peu qu'une seule autoroute possible dans la vie, c'est-à-dire de faire des grandes études si c'est possible, et ensuite le chemin qu'on connaît classique, un peu l'autoroute. Et le fait de rencontrer des personnes qui prenaient plus de temps dans leur vie pour faire d'autres choses, qui avaient des horaires différents, qui étaient aussi entrepreneurs, mais de plein de formes différentes. En fait, toutes ces rencontres-là, elles m'ont éveillé à dire « Ah oui, mais en fait, je peux aussi vivre ma vie comme ça, ou je peux aussi choisir vraiment comment j'ai envie de vivre. » Et ça, ces graines-là, ces événements de rencontres, ça a été hyper fort, en fait, après, dans le reste, dans la construction de ma vie adulte, en fait, puisque j'étais un peu au début de ma vie adulte, à ce moment-là.
Est-ce que, concrètement, tu pourrais nous raconter une expérience, peut-être ? Enfin, j'imagine qu'il y a eu, donc, des rencontres, alors, ou sinon, une rencontre marquante, des rencontres marquantes, précisément, où là, vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé, tu parlais de bifurcation, justement, là, peut-être quelque chose de particulier.
Alors, une rencontre particulière, je dirais la rencontre d'une communauté où j'ai vécu, en fait, au Guatemala, quand je travaillais là en tant que chef de projet. C'était une communauté de yoga où on vivait dans une espèce de grande maison et où il y avait des cours de yoga toute la journée. Il y avait un fonctionnement très collectif et il y avait des gens du monde entier, des gens du Guatemala, mais aussi d'ailleurs. Et comme je disais, des personnes qui dédiaient leur vie à leur passion. Et d'avoir vécu un an là-bas, ça a nourri un terreau hyper fort après pour moi, pour me donner l'élan de dire « Ok, bon, en fait, j'ai plus envie de faire des heures de bureau, 9h-17h, 9h-18h, et j'ai envie d'aller explorer d'autres choses, d'ouvrir, d'apprendre, de me relier plus à la terre. » Et c'est là que j'ai commencé plus à voyager aussi. Donc je dirais, cette communauté, elle a été vraiment importante dans ma vie.
C'est amusant, je me rends compte de mon tropisme occidental parce que justement je te demandais une rencontre et ta réponse a été « moi je m'attendais à une personne » et finalement tu réponds par « une communauté
». C'est intéressant.
Et donc oui, ça traduit peut-être pas mal de choses. Et alors après t'as continué, t'as voyagé, t'as voulu explorer encore davantage de choses.
Ouais, alors après j'ai continué, du coup mon fil rouge ça a été d'explorer les communautés justement, les façons de vivre en collectif, de créer en collectif, de coopérer. Et avec un prisme de permaculture, éco-construction, comment, en gros, un peu pour moi, ce qui était les bases de comment habiter différemment, manger différemment, comment être en lien avec le vivant d'une manière différente. J'ai un petit peu exploré en Amérique latine. Et après, je suis rentré en France aussi et j'ai continué cette exploration-là. Mais quand je suis venu en France, ça a été un moment très difficile, le retour, où je sentais qu'il y avait un appel de revenir quand même chez moi. Mais ça a été un moment difficile de retrouver mes marques, de me sentir à la fois de partout et de nulle part, de plus trop avoir de racines. Et c'est là que, d'ailleurs, le goût de la danse et des pratiques somatiques est plutôt arrivé à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai traversé vraiment un temps de vide, en fait, où je trouvais plus le sens pour coup de ce que je faisais sur Terre. J'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup exploré, qu'en même temps, j'avais plus envie de vivre en Amérique latine, mais en même temps, je savais plus trop qui j'étais et ce que je faisais. Et à ce moment-là, de traverser du désert qui a duré entre 6 mois et 1 an, je dirais, en France, je ne nommerais pas, c'est peut-être pas de dépression, mais en tout cas, il y avait un truc de déprime, quoi, un peu ambiante, et d'être très perdu, un peu de vide. Vide, c'est le mot, je pense, qui décrit le mieux. Et j'ai découvert la danse, comme ça, et la danse a redonné vraiment un élan, littéralement, dans ma vie, et un sens aussi. Et à partir de là, après, il y a plein d'autres choses qui se sont tissées, qui m'ont amené jusqu'à où je suis aujourd'hui.
Est-ce que tu te rappelles de ta première danse ?
Et ben, je me rappelle, en fait, d'un espace où j'étais allé danser, c'était un espace de biodanza. Très précieux, j'en suis vraiment reconnaissant de cet espace et juste d'être rentré dans la salle, il y a un truc qui a changé en moi, il y a une grande joie qui est arrivée et ça a été un état de grâce pendant 1 heure. Toutes les guidances, maintenant je pratique plus la biodanza, mais ça m'a vraiment ouvert à quelque chose de waouh, en fait c'est trop bon. Et je sais pas ce qui se passe, mais c'est trop bon et il y a quelque chose que j'ai besoin d'aller voir là-bas. Ouais.
Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs et auditrices, peut-être nous expliquer ce que c'est que la biodanza?
Je peux le dire en quelques mots. Déjà, c'est écrit bio comme biologique et danza, D-A-N-Z-A, si elles veulent rechercher. Et ensuite, c'est une pratique de mouvement très libre et en même temps quand même très guidée, à la fois seule et aussi dans la rencontre. Donc, il y a quelque chose beaucoup sur le relationnel et sur la liberté de mouvement, liberté d'être avec un groupe. Et c'est quand même un rituel qui dure une heure et demie. Chaque séance, elle dure une heure et demie à peu près. On commence tous ensemble avec un cercle de paroles. Ensuite, il y a différentes choses qui sont guidées par le facilitateur et la facilitatrice. Mais c'est, en gros, pour résumer, beaucoup sur la relation, la danse libre. Pas du tout de forme sur ce qui est attendu, mais plus sur la qualité de présence et la qualité d'être que ça peut ouvrir. Et ça laisse beaucoup de place aussi à l'expression émotionnelle, ce genre de pratique. Et ça amène aussi, du coup, des personnes qui peut-être n'ont jamais dansé, mais qui, là, se sentent libres de bouger et du coup de danser, parce que juste bouger, marcher, c'est déjà commencer à danser. Juste bouger son corps d'une façon ou d'une autre, c'est déjà commencer à danser. Et on a peut-être plus de difficultés à le reconnaître ici en France, ça. Et ça, cet espace-là, il a vraiment cette simplicité de si tu bouges, d'être. Tu danses. Voilà, et d'être. Voilà.
Ouais. Et alors là, donc tu reviens en France, tu expérimentes la biodanza. Et à quel moment, puisque c'est aussi l'objet de cette émission, à quel moment va venir, on va dire, le contact avec la dimension d'éducation sexuelle, de coaching sexuel?
Et ben ça vient, je pense, au bout de peut-être 2 ans que je suis rentré en France, où je commence vraiment à explorer la manière très intensive la danse. Donc j'ai commencé avec la biodanza et après j'ai exploré plein de pratiques différentes. Et en fait, je pense que la danse, ça a été un chemin qui m'a amené à me reconnecter profondément à mon corps, dans son intelligence, dans sa sagesse, dans ce qu'il me dit et dans son goût, en fait. Et là, j'utilise le mot goût à dessein parce que dans son goût, il y avait un goût de plaisir, de sensualité. Il y avait quelque chose que je sentais que moi, je pouvais incarner et que j'avais accès assez facilement et que je voyais assez peu ou assez nié autour de moi. Et du coup, ça m'a donné envie, toujours dans cette recherche de sens, de dire, ah ouais, là, je crois que je peux contribuer, je peux partager quelque chose au monde depuis cet endroit-là d'état de présence. Et j'ai trouvé cette formation que j'ai faite en Angleterre, qui me parlait à fond, parce qu'elle mettait ensemble plein de choses qui me convenaient sur justement les approches somatiques, donc corporelles, du coaching, enfin dans le sens d'un accompagnement de la personne. Prendre en compte tout ce qui est trauma, système nerveux, prendre en compte la notion de consentement, prendre en compte la notion d'éducation, parce que on a tous et toutes besoin à tous âges d'éducation sexuelle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis quand je partage de l'éducation sexuelle. Et donc après, avec cette formation, ça m'a aussi vraiment lancé après sur ouvrir et sur ces sujets-là et puis commencer à le partager professionnellement, quoi.
C'est intéressant, c'est que tu nommes la façon dont tu décris la chose. C'est comme si tu avais eu un appel de ton corps, comme si ton corps, tu parlais de lui comme une troisième personne et t'as expérimenté et ton corps t'appelait vers.
Et en tout cas, il y a vraiment ça. Je ne sais pas si je le nommerais comme une troisième personne, parce que ça, c'est comme si ça me séparait trop. Je préfère plus voir comme une unité. Et même d'ailleurs, moi, j'aime pas forcément voir le mental séparé du corps, dans le sens où le mental, il a aussi toute sa valeur, il a tout son intérêt. Sauf qu'on a tendance aujourd'hui à plutôt survaloriser le mental et penser que le corps, c'est juste le taxi de notre mental. Et dans ce que je vis, c'est plutôt intégrer tout ça ensemble et étudier toute cette intelligence du mental et du corps. Et là, il y a vraiment quand même eu un appel, en effet. C'est pour ça que j'utilise le mot goût du corps, mais dans le sens, du coup, un appel charnel presque, de cette sensorielle. Chair, ouais, sensorielle, de cette chair du monde qui entre en résonance et qui a envie d'aller explorer ça. Ouais.
Il avait quelque chose à dire. En tout cas, ou
complètement, ouais.
La balance.
Il a encore plein de choses à dire.
la balance demandait qu'à être rééquilibrée. On va revenir après une courte pause à justement ton accompagnement sexuel, sensuel que tu proposes à différentes personnes après un petit interlude musical. Thank you. Nous voilà de retour sur Radio Campus Grenoble, les mémoires dans la peau avec un invité spécial. Ils sont tous spéciaux, mais j'allais dire, c'est toujours celui du soir qui est encore plus spécial.
C'est ça.
C'est Thomas Recourt. Comment tu te définirais, Thomas, coach en éducation sexuelle?
Alors je dis coach et éducateur somatique, j'aime bien garder ça avec un focus en particulier sur la sexualité, le plaisir, la sensualité. Et maintenant aussi beaucoup sur l'érotisme. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de l'émission. Ouais. On va ouvrir ça.
Oui, tout à fait. Et tu me parlais d'Esther Perel, qui est pour toi l'une des sources d'inspiration. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots?
Ouais. Alors, en effet, c'est important de nommer un peu mes sources d'inspiration sur l'érotisme parce que c'est un mot qui a été utilisé de plein de façons différentes. Et moi, je l'utilise d'une façon pour moi qui donne beaucoup de goût et de vivant. Et Esther Perel, c'est une de mes inspirations. C'est une sexothérapeute belge, mais qui travaille surtout en anglais. Je crois qu'elle a surtout vécu aux États-Unis. Qui a beaucoup travaillé sur les relations de couple, comment elles durent ou pas, ou qu'est-ce qui se passe aussi dans le fait d'avoir besoin peut-être d'aller voir ailleurs dans son couple, ou comment maintenir le désir dans le couple, ou qu'est-ce qui fait que le désir s'éteint. Et du coup, elle a amené cette vision aussi de l'érotisme qui me paraît super intéressante et qu'on va partager là.
Je vous propose une série de textes choisis d'ailleurs par Thomas, que Céline va nous lire.
Esther Perel définit l'érotisme comme les qualités de vitalité, de curiosité et de spontanéité qui nous font sentir vivants. Si vous avez déjà voyagé dans un nouvel endroit et que vous vous êtes senti vivant simplement en explorant les rues, vous avez fait l'expérience directe de l'érotisme. Mais au milieu de nos routines et de nos responsabilités quotidiennes, il peut être facile de perdre le contact avec ce sentiment d'excitation. Pour accéder à l'érotisme, il faut d'abord croire que nous le méritons et choisir d'être à la fois curieux et ouvert. Bien que l'érotisme soit généralement lié à une relation entre deux personnes, nous pouvons en faire l'expérience au niveau individuel, que nous soyons ou non impliqués dans des partenariats romantiques. Cela commence par ce que Perel appelle « posséder le désir », un sentiment qui implique de se sentir digne de désirer et de recevoir. Alors, comment accéder à l'érotisme? Il s'agit d'être ouvert au monde et aux gens qui nous entourent. Perret recommande de compléter les phrases « je m'excite quand » et « je m'éteins quand » et de penser à ces phrases en termes autres que le sexe. Tout ce qui vous donne de l'énergie peut être considéré comme tel et quelque chose comme une promenade où la danse peut entrer dans la définition de ce qui vous excite. L'érotisme, j'en parle souvent. Non pas à travers la définition étroite du sexe que la modernité lui a attribuée, mais au sens mystique. L'érotisme nous révèle un autre monde. À l'intérieur de ce monde, a écrit Octavio Paz, les sens deviennent les serviteurs de notre imagination, nous permettant de voir l'invisible et d'entendre l'inaudible. L'érotisme est un élixir de vitalité, de curiosité et de spontanéité qui nous fait sentir vivants. C'est le contrepoids de la mort, un rayonnement qui nous rappelle que, malgré les ténèbres que nous pouvons endurer, nous sommes ici, sur cette planète, en ce moment même. Et à tout moment, nous sommes à la limite de tout ce qui est possible, à cheval entre l'espoir et l'anxiété. L'érotisme n'est pas seulement la force vitale qui fait la grandeur du sexe. L'érotisme est ce qui fait que la vie elle-même vaut la peine d'être vécue. Lorsque les temps sont bons, l'érotisme est ce qui transforme le quotidien en magie. Dans les moments difficiles, c'est l'érotisme qui nous incite à survivre et même à prospérer en dépit de tout. Ne considérez pas l'érotisme comme une distraction hédoniste de l'état du monde. L'érotisme est la force vitale qui nous permet de rester connectés à notre sens de l'humanité, de l'espoir et du désir, en particulier lorsque nous souffrons. Il confirme « j'existe, je suis vivant, j'ai une famille, j'ai un nom, quelqu'un me connaît, j'ai la capacité de créer, de divertir, d'aider, d'entrer en contact avec les autres. C'est aussi la réalité de notre monde. »
Les mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David, sur Campus Grenoble.
Nous voilà de retour après ces textes choisis par Thomas Recourt, mon invité, d'Esther Perel. Alors, j'allais dire, elle bouleverse un petit peu une certaine vision qu'on pourrait avoir de l'érotisme. Alors, en quoi cela t'inspire, Thomas ?
Ben, ça m'inspire beaucoup, c'est ce qui guide pas mal de choses dans ma vie et dans ce que je propose. Et ça m'inspire dans ce sentiment que l'érotisme, c'est tabouisé, c'est quelque chose qui est classé comme un peu le libidineux, le sale, le dangereux. En fonction de notre genre aussi, ça, on va pas avoir le même lien et le même rapport à l'érotisme. Et en fait, ce que je vois et ce que je vis, c'est qu'en se reliant à l'érotisme de cette façon, comme quelque chose déjà souvent très sexuel et en plus très tabou, ou parfois nié ou vilipendé, considéré comme mauvais ou dangereux, en fait, c'est comme si on se coupait de toute une puissance qu'on a, tous et toutes. Et donc, pour moi, il y a vraiment un chemin sur retrouver cette qualité de présence au monde, qui est en fait une qualité de curiosité, une qualité d'ouverture, une qualité une qualité du coup de corps qui ressent, qui capte les informations aussi de manière très animale, très primale. Donc, c'est aussi, il y a une force un peu primale et animale dans l'érotisme. Et c'est comme si, comme il a été interprété dans ces dernières années, dans ce monde tel qu'il est, ça nous a invités à nous en retirer, alors qu'en fait c'est une puissance infinie qui peut ouvrir vraiment des choses très belles, je pense, pour soi et pour les autres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de s'y reconnecter de cette façon-là et en trouver un imaginaire beaucoup plus positif, plus harmonieux, inspirant que l'imaginaire qui existe actuellement autour de ça.
Et puis il y a la dimension de connexion, d'être connecté à soi, d'être connecté aux autres, d'être même connecté à la nature.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a vraiment cette dimension-là. Et si je fais peut-être aussi une ouverture et un lien avec ce qu'on va explorer plus tard, c'est que il y a l'idée pour moi, en tout cas, d'intégrer l'érotisme dans mon état de présence, c'est intégrer du coup les différentes parties de moi et les différents leviers que j'ai de connexion à moi, au monde, à la nature. Et du coup, il y a une forme d'intégration. Tout comme il y a une forme d'intégration dans avoir une pratique de pleine conscience ou de pleine présence en intégrant tout mon corps, notamment mes parties génitales qui souvent sont pas incluses ou pas nommées dans les pratiques de pleine conscience ou de pleine présence. Et donc pour moi, il y a je sais pas si tu me suis là-dessus sur ce parallèle entre en fait, on va rien nier, on va rien retirer, mais on va plutôt intégrer et célébrer tout ce qu'on est au même niveau. Et c'est la même chose pour moi avec l'érotisme.
Oui. C'est vrai que dans les pratiques de pleine conscience, de pleine présence, on est traversé. L'idée, c'est d'être traversé par justement des choses d'ailleurs qu'on n'a pas forcément conscience au premier abord, par des sensations, par des émotions, alors des fois par des pensées. Et culturellement, c'est vrai que la dimension sexuelle, à moins d'être plutôt dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain, où il peut y avoir cette dimension, j'allais dire, sacrée du sexe, et qui vient d'ailleurs de la partie tantrique.
Ouais.
Voilà, mais c'est vrai que dans la majorité des pratiques, presque une vision un peu morale et donc excluante de la dimension sexuelle. Et c'est vrai, ce que tu proposes est un accueil de ce qui nous constitue et par quoi on est traversé.
Ouais, c'est ça, comme une idée d'accueil, d'intégrer et d'être plus pragmatique que morale, en fait. Ouais, un peu aller au-delà de la morale, trouver plus son sens et sa propre façon de relationner avec ça.
Et tu me parlais des différents degrés d'amour de Jean-Yves Loup. Et c'est vrai que bon, c'est, on va dire, une liste de 10 degrés, donc on ne va pas vous les détailler tous, mais en les lisant, en tout cas, je me suis rendu compte de la diversité de la façon d'aimer. Je mettrai le lien sur...
avec le tableau, là.
Voilà, sur la page internet avec les 10 degrés. Mais peut-être que dans ces 10 degrés, tu peux nous en évoquer certains qui te parlent plus.
Ouais, carrément. Bah, surtout en lien avec l'érotisme là, dont on parle aujourd'hui, et la sexualité. Déjà, moi, ce que je trouve super intéressant sur les 10 degrés de l'amour, c'est que aimer, c'est un mot magnifique, ou l'amour, c'est super. En revanche, ça englobe tellement de choses que parfois, ça peut être un peu plus simple de décomposer pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'amour. Et du coup, les degrés de l'amour dans le grec permet de comprendre qu'en fait, je peux aimer de plein de façons et je peux aussi, peut-être qu'avec certaines personnes, il y a un certain type d'amour qui va être présent. Par exemple, il y a philia, qui est l'amour fraternel, la sororité, donc avec frères et sœurs, mais aussi avec des amis, on peut sentir du philia. Et après, il y a les amours là, qui nous intéressent plus aujourd'hui, porneia et eros. Donc, porneia, c'est de là d'ailleurs que vient le mot pornographie. Mais à la base, porneia, ça veut dire, en fait, c'est l'amour primal, l'amour bestial. Ça vient vraiment reconnecter avec cette force primale et bestiale qu'on a. Si on le compare au degré du développement, c'est l'enfant, la première chose qui va, le bébé qui sort du vagin de sa maman, de l'utérus de sa maman, il va sortir, il va aller chercher le sein. Et c'est cet amour-là de, en fait, je t'aime et je te mange, je te dévore, parce que c'est ça qui me rend vivant. Mais un pornéa qui va être plus mature, ça va être un pornéa qui va être capable de déguster le monde, de rentrer dans le monde depuis cette force primal, bestial, tout en ayant bien sûr une maîtrise de soi-même, parce qu'on est dans un monde social avec des règles de bienséance et puis des règles aussi de respect de chacun et chacune. Et Eros, c'est plus l'amour du désir, l'amour, donc c'est la racine du mot érotique, Eros, c'est très lié au désir et ce qui est intéressant avec Eros, c'est que c'est présent dans tous les degrés de l'amour, parce que dans toutes les formes d'amour, il y a besoin d'un désir qui est dans le sens désir d'aller vers, d'avoir envie d'aller vers, dans cette définition du désir. Et Eros, ça parle vraiment d'une puissance infinie qui se répète. Et il y a un sexothérapeute qui parle d'Eros comme un espèce d'état pré-orgasmique. Je trouve ça intéressant. Qui va jamais vers l'orgasme, mais qui s'approche de ça, un état, tu vois, de vibrance et qui reste là, mais qui a pas d'objectif, qui est juste là dans le savourer ce moment-là. Et j'aime bien cette idée d'état pré-orgasmique.
L'orgasme l'attend. Il est présent sans être abouti.
Voilà, c'est ça. Et sans avoir besoin d'y aller, parce qu'en fait, c'est juste bon à cet endroit-là avant. Voilà.
Et pour revenir sur Esther Perel, dans son texte, dans les extraits choisis, qui viennent d'être passés il y a quelques instants, elle parle aussi d'être digne de donner et de recevoir. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que là, peut-être on peut rentrer un peu plus dans l'accompagnement que tu proposes.
Je travaille beaucoup là-dessus, en effet, dans mes accompagnements. Donc le point de départ, c'est l'intimité, la sexualité. Et à partir de là, en fait, on se rend compte que c'est relié à plein de choses dans la vie. Et c'est relié beaucoup dans la sexualité, mais aussi dans le reste de la vie, à l'art de savoir donner, savoir recevoir. Et souvent, c'est très dur de recevoir, d'ailleurs. C'est vrai qu'on discutait avant l'émission sur un peu quel type de personne j'accompagne. Et du coup, j'essaie un peu de sortir un peu des grands éléments pour pouvoir partager, donner une idée. Et je te partageais que dernièrement, par exemple, j'avais travaillé avec beaucoup de femmes, plutôt, on va dire, 50 ans et plus, donc qui ont aussi grandi dans un certain contexte, avec très peu d'éducation sexuelle, un patriarcat quand même assez intense, en tout cas, de quelle est la place de la femme, aussi le rôle de la femme dans la sexualité. Et ces personnes-là viennent me voir en me partageant en fait qu'elles ont très peu accès à leur plaisir, aussi à leur désir, et difficilement ou jamais connu de plaisir dans leur sexualité, ou pas d'orgasme, ou même peu ou pas de plaisir dans leur sexualité. Et l'accompagnement, il passe souvent par retrouver d'avoir un endroit de reconnexion à son corps, bien sûr, de sécurité intérieure, et de réapprendre à pouvoir sentir c'est quoi mon désir, en fait, vers quoi je vais, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, d'apprendre à pouvoir recevoir ça pleinement. Et donc là, je travaille avec différentes modalités, mais parfois il peut y avoir aussi du toucher, pas du massage, mais du toucher plus dans une optique d'éducation et d'expérimentation, dans une optique vraiment comme on fait dans les pratiques somatiques ou en recherche, en fait, on est un peu des chercheurs et des chercheuses. Et puis après, il y a aussi toute une partie d'éducation, de comprendre comment fonctionne son corps, à la fois dans l'éducation théorique, mais aussi expérientielle, c'est-à-dire j'invite aussi les personnes à aller après elles-mêmes explorer. Par exemple leur sexe, voir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vivant, où est-ce que je ressens, où est-ce que je ressens pas. Et souvent ces femmes-là se rendent compte que tout va très bien, tout fonctionne très bien, et que c'est juste que les chemins se sont perdus un moment dans leur chemin de vie, pour plein de raisons que j'ai un peu nommées au début, et c'est super beau à voir comment ça peut se déployer.
Quand je t'entends, j'ai l'impression de... On parlait de l'appel du corps,
finalement au début de l'émission, et j'ai l'impression que c'est un peu rallumer la flamme un petit peu, de réveiller tout ça pour que finalement le corps puisse librement s'exprimer.
Ouais, c'est une belle façon de le dire. C'est comme si, ouais, dans ce que, enfin, tout est déjà là, mais il faut peut-être rallumer la flamme ou dépouiller des choses, se libérer de certaines choses pour, en fait, juste pouvoir exprimer son potentiel qui est déjà là. Mais pour y arriver, il y a besoin de peut-être de rallumer ou de nettoyer, de digérer, de faire un petit ménage dans tout ça et de retraverser aussi son histoire parfois. Mais en tout cas, dans la confiance que nous sommes des êtres orgasmiques, nous sommes des êtres de plaisir. C'est quelque chose qui nous est offert.
Ouais. Alors, tu parles de faire le ménage. Alors, ça m'intrigue. Non, mais parce que quand tu évoques ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est les injonctions. Voilà, tu parlais de femmes de 50, 60 ans, et j'imagine que les femmes plus jeunes ont aussi d'autres injonctions. Ouais. Et je me dis que ça doit être aussi des choses avec lesquelles il faut, enfin, sur lesquelles tu travailles, enfin, avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les injonctions, je sais pas, d'être une femme ou d'être un homme dans le rapport sexuel, tout simplement.
Ouais, bien sûr. Bah, disons quoi, j'appelle ça, ouais, moi, des autoroutes aussi. Enfin, dans le sens où c'est comme si on avait un peu des autoroutes qui avaient été tracées dans c'est quoi nos chemins de plaisir, c'est quoi nos chemins de, oui, dans le plaisir, dans l'expression de notre sexualité. Mais souvent, qui a pas vraiment été tracé par nous-mêmes parce qu'on a été un peu inondé d'un imaginaire qui n'est pas propre à nous, mais qui est l'imaginaire un peu imposé par le capitalisme, pour faire très court. Et notamment l'imaginaire pornographique, et je pense que ça, c'est un gros sujet. Tu parlais des personnes plus jeunes, c'est effrayant, l'accès à la pornographie pour les, je crois que c'est entre 10 et 12 ans, c'est plus de 2/3 des enfants qui ont déjà vu de la pornographie, quoi. Donc une éducation sexuelle à base de pornographie ou une hypersexualisation très présente, en particulier des femmes, dans les pubs, dans toutes les représentations qu'on a. Donc il y a des autoroutes et qui sont des injonctions qui ont été tracées par ce bain. Et du coup, c'est comment créer des nouveaux chemins qui sont des chemins propres. Et ça passe par l'expérience et par recréer ces chemins aussi vraiment dans le corps, pour coup. Et c'est là, c'est ce qu'on parle aussi dans cette émission. C'est comment dans mon corps, je vais les trouver en étant un chercheur, une chercheuse. Et comment je vais faire de ces chemins mes nouveaux chemins par défaut, parce que ça demande de la pratique. Ça qui est intéressant, c'est que c'est pas miraculeux non plus, c'est que d'abord je vais les découvrir et ensuite plus je vais prendre ces chemins-là, plus ils vont devenir mes chemins par défaut. Et ça demande de la pratique.
Ouais. Une sorte d'apprentissage, de réapprendre des choses ou de révéler ce qui est déjà présent, pour reprendre un petit peu.
Ouais, c'est un peu les deux, ouais. Ouais, carrément.
Et alors, d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, dans quelques minutes, Thomas nous proposera justement un accompagnement, voilà, pendant une vingtaine de minutes, où vous allez pouvoir expérimenter. Mais avant de passer à cette dernière étape de l'émission, tu parlais d'autoroute. Là aussi, ça m'interpelle. Est-ce que tu as remarqué des autoroutes, j'allais dire, genrées ?
Là, j'avais parlé un peu de clientes. J'ai aussi des clients. Et parmi les autoroutes pour les hommes, il y a cette autoroute de la masturbation rapide des charges, je dirais. Donc les garçons et puis les hommes, on a plus eu la permission de se masturber, d'avoir ce rapport à ce corps-là, beaucoup plus que les femmes. Et en revanche, ça construit un rapport qui a été qui est souvent construit dans un rapport de la masturbation comme, et du coup l'éjaculation comme, une forme de décharge émotionnelle qui vient un peu réguler quand il y a quelque chose qui est un peu trop et je sais pas trop ce qui se passe, et il y a peut-être un peu trop de stress ou n'importe quelle, en fait, émotion ou sensation un peu trop forte, la masturbation peut être là pour soulager ça. Il y a beaucoup d'hommes qui l'utilisent comme ça, et j'accompagne pas mal d'hommes là-dedans dans des formes d'addiction à la masturbation de décharge. Et c'est pas un jugement quand je dis décharge, mais c'est plus une constatation de comment ce chemin est créé. Et qui est aussi, comme je l'avais nommé avant, à la pornographie, souvent relié à une addiction à la pornographie, à ce truc-là de ok, c'est facile, je me relie à de la pornographie, il y a un truc qui est fort, boum, je fais mon truc, et en quelques minutes, c'est bon, je suis soulagé. Et ça peut parfois vraiment amener des comportements compulsifs d'avoir besoin de se connecter plusieurs fois par jour à ce type d'expérience, quoi. Et donc j'accompagne aussi un certain nombre d'hommes là-dedans. Je pense que c'est une expérience assez commune aujourd'hui.
Et ben nous allons justement expérimenter un peu différemment les choses grâce à ton accompagnement après la pause musicale. Peut-être que on pourrait donner quelques petites indications avant peut-être vous mettre à l'aise, trouver un endroit peut-être au calme dans lequel vous êtes je sais pas, vous sentez sécure. Peut-être, c'est les indications qu'on peut donner déjà en préambule.
Ouais, tout à fait. Ouais, si vous avez l'occasion d'être dans un endroit cocon, calme, tranquille. Et puis à tout de suite.
À tout de suite.
Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. Foi no bloco Lodum que encontrei meu amor. Ah, 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 oh, oh. Ah, 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 oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vem me embalar, neném. Taran, 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 taran. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente.
Après cette petite musique brésilienne, dommage que nous n'ayons pas la caméra, car Thomas était en train de danser sur, sur sa chaise. Donc, nous voulions vous faire une petite surprise pour cette dernière partie d'émission avec Thomas qui va nous proposer une guidance et on va dire le type de guidance que tu proposes pour certains types d'accompagnement, il me semble.
Ouais, c'est ça. Je l'ai appelé de différentes façons. Parfois, je dis masturbation pleine conscience, mais il y a un côté un petit peu réducteur et j'aime bien aussi dire pratique érotique, méditative. Voilà. Donc l'invitation, c'est de retrouver, bien sûr, d'être dans un endroit le plus tranquille possible, le plus calme, où tu sais que tu ne vas pas être interrompu, ça va durer 18 minutes à peu près. Et bien sûr, ce que je propose, c'est que des propositions, tu peux interpréter comme tu souhaites mes propositions, le suivre, pas les suivre, les transformer. Et aussi préciser que c'est une pratique que tu peux faire autant ou aussi peu habillé que tu le souhaites, avec autant ou aussi peu d'habits que tu le souhaites. Voilà. Donc on va ouvrir l'espace. Ouais, donc l'idée c'est que tu t'offres un temps pour toi, et c'est un temps qui a un début et une fin, donc là la cloche et le début de la musique, ça permet de sentir cet espace qui s'ouvre, que tu t'offres pour toi-même. Et je t'invite juste à laisser ton attention redescendre un petit peu, elle était peut-être plus dans la tête, dans la pensée, et comme si tu pouvais laisser descendre quelque chose, laisser couler quelque chose en toi, plus dans l'ensemble de ton corps. Et juste voir si tu peux relâcher quelque chose en toi, adoucir quelque chose en toi. Laisser se déposer. Et dans laisser se déposer, il y a aussi céder ton corps à la gravité, à cette gravité terrestre, et laisser ton poids se déposer un petit peu plus. Si tu es assis, assise ou allongé, sentir tous les points de contact que tu as avec le sol, avec la terre, et laisser ces points de contact se densifier dans le sens où tu laisses ton poids se déposer un petit peu plus. Qu'est-ce que tu peux lâcher encore un petit peu plus au sol, à la terre, qui est là pour te soutenir. Et puis depuis cet endroit-là, tu peux prendre trois grandes respirations en inspirant par le nez, en expirant par la bouche et en faisant du son. Et un son qui amène une vibration et que tu peux laisser descendre, laisser plonger cette vibration dans tout ton corps. Donc t'inspires par le nez. Et sur l'expire, tu détends la mâchoire, tu détends ta gorge, tu fais du son qui vibre. Voilà, je te laisse faire encore deux grandes respirations. Tu peux vraiment faire des expires le plus long qui sont disponibles pour toi. Et depuis cet endroit où tu es maintenant, cette qualité de présence, rester en lien avec ta respiration, avec cette qualité de dépôt à la terre, au sol. Je t'invite à laisser remonter une intention pour la pratique là, que tu vas faire pour toi-même. Juste laisser remonter s'il y a des mots qui sont là, s'il y a des images, des sensations. Qu'est-ce que tu souhaites t'offrir? Qu'est-ce que tu souhaites explorer? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Juste pose une intention en quelques mots, en une peut-être une phrase courte que tu peux nommer à voix haute ou dans ta tête, de ce que je souhaite le plus, c'est ce que je souhaite m'offrir. À toi de voir ce qui te parle le plus. Une fois que tu as posé l'intention, tu peux la laisser résonner dans le corps, c'est-à-dire, est-ce que ça change quelque chose à peut-être à ta qualité de présence, à ton ressenti de poser cette intention? Est-ce que ça crée quelque chose en toi? Et je t'invite à laisser cette intention derrière, faire confiance qu'elle va circuler, elle va faire son chemin, t'as pas besoin de t'y accrocher. Il n'y a rien à faire, déjà juste se la poser et ensuite les choses vont se faire. Donc laisser l'intention derrière toi. Et je vais juste nommer des parties de ton corps et je vais t'inviter à amener ton attention, ta présence sur ces parties-là. Le front. Le ventre. La plante des pieds. Les yeux, le cœur, les fesses, les mains, et puis garder cette attention sur les mains, en particulier sur la paume des mains. Relié à toutes les sensations qui sont présentes sur la paume de tes mains. Les mains qui sont des capteurs très riches en terminaisons nerveuses, qui ont une grande capacité de ressentir. Donc amenez juste ton attention, ta présence, tendrement, tranquillement sur tes mains. Essayez d'être le plus subtil possible sur qu'est-ce qui se passe dans mes mains, comme sensation, est-ce que je ressens des températures, des picotements. Peu importe la sensation, l'idée c'est juste d'être avec cette sensation. Et je t'invite à laisser tes mains se poser quelque part sur ton corps, peut-être à deux endroits différents, peut-être au même endroit ou tout proche. Mais laisse tes deux mains se poser là où elles ont envie de se poser, sur ton corps. Et sentir ce contact entre la paume de tes mains et ton corps. Comme à la fois tes mains touchent ton corps. Et ton corps, il touche aussi tes mains. Il y a un mouvement de ton corps vers tes mains que tu peux ressentir. Et je t'invite juste à laisser tes mains se poser à différents endroits de ton corps où ça te parle maintenant, où ça t'appelle. Sans trop réfléchir, juste laisser faire ton intuition, le mouvement de tes mains. Et laisser comme si tes mains pouvaient reconnaître tout ton corps, pouvaient reconnaître peut-être des endroits de peau, ou des endroits où tu es habillé, peu importe, mais juste tes mains qui peuvent se poser, comme si elles venaient donner du contenant, de la présence, avec ce toucher. Et à toi de voir, peut-être que ça a un toucher... avec un petit peu de pression, peut-être que c'est un toucher plus léger, plus de l'ordre de la caresse. Peut-être que c'est un toucher qui ressemble plus à du massage. Qu'est-ce que t'as besoin de t'offrir maintenant? Qu'est-ce qui te fait du bien? T'as juste à le suivre. Avec cette intention de reconnaître, de te voir, de prendre soin de toi. Et en même temps que tu te relies aux sensations dans tes mains, tu te relies aux sensations de ta peau, aux sensations de toute ta peau, toute la surface de ton corps. Voilà, je te laisse encore quelques secondes pour explorer ça à ton rythme, avec ta créativité. Je t'invite dans les prochaines secondes, si ça te parle, à amener tes mains plus sur la zone de ton bassin. Reconnaître toute cette zone-là, tes hanches, ton pubis, ton sexe, ton périnée, tes fesses, ton anus. Ouais, juste comme si tu voulais réveiller cette zone-là, amener de la présence, de l'attention à cet endroit de ton corps. Et puis un moment, juste poser une main sur ton sexe et une autre main par-dessus cette main-là. Peu importe si tu es habillé ou nu, ça marche. dans les deux cas. Et juste sentir, encore une fois, le contact de ta main avec ton sexe. Le contact de ton sexe vers ta main. Et là, pour amener un petit peu plus de vivance, de connexion dans cette partie du corps, du bassin, je vais t'inviter à faire quelques respirations avec de la contraction et de la détente du périnée, ce muscle qui innerve le bassin. Donc si tu connais pas, c'est comme si tu voulais arrêter d'uriner quand tu serres ce muscle-là. Et donc juste sur l'inspire, tu peux contracter légèrement ton périnée, inspirer, contracter légèrement ton périnée. Et sur l'expire, juste relâcher, tu peux expirer en faisant du son, en détendant la mâchoire, en détendant la gorge. Et faire quelques respirations comme ça, où tu inspires, tu contractes légèrement ton périnée. Tu expires, tu détends la gorge, tu fais du son, tout en gardant les mains posées sur ton sexe. Et en reliant ça avec les sensations dans tes mains, au niveau de ton sexe, au niveau de ton bassin. Voilà, continue quelques respirations. Si ça fatigue trop ton périnée, tu peux faire une pause puis reprendre. Trouve le rythme qui est bon pour toi dans cette respiration. Peut-être que c'est très lent, peut-être que c'est un peu plus rapide. Et observe comment ça se diffuse. Les sensations dans ton bassin, dans ton périnée, dans ton sexe. Juste être attentif à la subtilité, à la douceur de la sensation. Et tu peux arrêter les contractions, toujours tu gardes les mains posées, immobiles. Tu te relies de nouveau à ta respiration avec des respirations les plus profondes possibles. Soit par le nez, soit en expirant par la bouche comme je te l'ai déjà proposé. Et là, je t'invite à imaginer que tu respires comme si tu respirais depuis ton bassin et en particulier depuis tes parties génitales, depuis ton sexe, comme si tu inspirais et tu expirais depuis tes parties génitales. Comme si tu pouvais te mettre vraiment de la place dans cet endroit de ton corps. Comme si tu pouvais renouveler quelque chose par la respiration et vraiment faire descendre ta respiration le plus profond dans ton bassin. Respirer amplement depuis ton sexe. Voilà, si tu sens que ton attention part ailleurs, c'est bienvenu, tu peux juste l'observer et revenir sur la sensation sous tes mains, sur tes mains, la sensation sur ton sexe et peut-être les sensations ailleurs dans ton corps. Puis je t'invite à relâcher cette recherche là de la respiration au niveau de ton sexe et juste conserver le contact des mains et peut-être laisser tes mains bouger tranquillement comme elles ont envie de bouger, comme elles ont envie de rentrer en relation avec ton bassin, avec ton sexe, sans chercher à faire monter une excitation particulière, juste être là, être avec, offrir cette présence. Tout ton amour, toute ta présence. Ouais, juste suivre le mouvement qui se fait là entre tes mains et ton bassin et ton sexe. Est-ce que c'est très léger? Est-ce que c'est plus profond? Juste laisser faire. Être là, être avec. Si tu sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie sexuelle ou de l'excitation sexuelle qui monte, c'est bienvenu. Tu peux vraiment le célébrer. En même temps, c'est pas non plus l'objectif. C'est pas ce que tu vas nourrir ou ce que tu vas chercher à faire grandir. C'est juste, tu restes avec, tu l'accompagnes. Et puis, on arrive déjà sur la fin de cette pratique. On va juste prendre un petit temps d'intégration où tu peux ralentir ton mouvement et laisser une main posée sur ton sexe et puis une main au niveau de ta poitrine, au niveau de ton cœur. Et juste sentir de nouveau, pendant quelques secondes, les sensations sous ta main. Tu peux imaginer qu'il y a une forme de connexion entre tes deux mains, celle qui est posée sur ton sexe et celle qui est posée au niveau de ton cœur, qu'il y a une connexion aussi entre ton sexe et ton cœur. Juste la ressentir, la rendre palpable par ta présence. Voilà, prendre deux grandes respirations et clôturer cet espace, te remercier. Et voilà, trouver ta façon de clôturer.
Merci Thomas.
Merci Jean-David d'avoir permis cet espace avec toute l'équipe.
J'espère que nos chers auditeurs et auditrices ont éprouvé beaucoup de plaisir.
Ouais, en tout cas, je leur souhaite au moins de la détente. Moi, ça m'a mis dans cet état-là de détente. Et je pense que c'est la première étape à toute forme de plaisir et de reliance à son corps, c'est la détente. C'est pour ça que j'ai plus souvent insisté là-dessus, se rendre disponible par la détente à ressentir.
Et de goûter.
Ouais, le goût.
Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Thomas. Thomas Recourt, pourrais-tu nous donner, malgré tout, une petite recette pour habiter ton corps ou le réinvestir quand tu te sens déconnecté? Est-ce que tu aurais une petite trick?
Ouais, il y en a plein. Je pense à je vais en donner deux. Il y en a un où c'est de retrouver un regard différent et d'élargir mon regard. En général, quand je suis un peu pris dans des pensées, un truc un peu difficile, mon champ de regard est un peu fermé. Et donc c'est juste se reconcentrer de nouveau sur un regard plus large et par exemple poser mes mains des deux côtés de mon corps et avec mon regard avoir ce regard à 180 degrés qui s'ouvre, et ça souvent ça apaise quelque chose. Et l'autre chose que j'ai partagé là dans cette méditation, dans cette pratique érotique, c'était d'inspirer et de faire du son sur l'expire. Ça donne littéralement l'information à mon corps que je suis en sécurité, qu'il peut vibrer, que je ne suis pas en train de fuir quelque chose, il n'y a pas de danger. Je peux faire du son, je peux vibrer, c'est tranquille.
Merci Thomas d'être venu au micro des Mémoires dans la peau.
Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir.
Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver les dates des accompagnements, des spectacles, parce que oui, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre émission.
Ouais, il y a plein de choses à dire.
Des spectacles et des ateliers que Thomas propose. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram et sur son site internet thomasrecourt.com. Est-ce que tu as un événement ou peut-être des ateliers à...
Ouais, là, dans les choses qui vont se faire en juin, je propose une retraite qui s'appelle Souveraineté intime. Donc, ça parle bien de ce que ça parle dans le titre. Et après, je fais un événement dédié aux hommes en juillet, une retraite. Et en août, aussi, une retraite sur l'anus, qui s'appelle La sagesse de l'anus. Peut-être l'ouverture sur une prochaine émission.
Tout à fait. Et bien, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un mois. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page internet de l'émission où vous trouverez toutes les informations sur les invités et la programmation musicale. Vous pourrez également réécouter les épisodes précédents. D'ici là, portez-vous bien, caresses et bis à l'œil. C'était Les Mémoires dans la peau, saison 2, épisode 7. Thomas Recourt ou Comment érotiser sa vie. Une émission de Jean-David sur Radio Campus Grenoble. Oh,
baby.